Et si vous pouviez découvrir tous les secrets des huiles essentielles, savoir comment elles sont fabriquées, comment les utiliser, mais aussi des infos concrètes pour prendre soin de vous au naturel. Bienvenue dans Les huiles essentielles de vous à nous, le podcast qui vous révèle tous les secrets des huiles essentielles. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast Les huiles essentielles de vous à nous. Alors, pour ce premier épisode, il fallait forcément qu'on ait un thème exceptionnel. La naissance d'une huile essentielle. D'une petite graine au flacon que vous tenez dans votre main, on vous raconte tout. Bonne écoute! Bonjour à tous! Julien est producteur d'huile essentielle biologique. Il a créé la marque Bohemia. Peut-être avez-vous déjà senti ces huiles, elles sont exceptionnelles. Aujourd'hui, il nous raconte toutes les étapes de la création d'une huile essentielle, depuis la graine jusqu'au flacon. C'est parti! Julien, est-ce que tu pourrais nous raconter toutes les étapes pour obtenir une huile essentielle?
Oui, bien sûr. Alors, les différentes étapes, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et avant d'arriver à avoir une huile essentielle dans un petit flacon, c'est vrai qu'il y a pas mal de procédés. La première chose à prendre en compte, c'est qu'il faut faire la différence entre des huiles essentielles issues de plantes sauvages ou des huiles essentielles issues de plantes cultivées. Et donc, déjà à partir de là, on va avoir des différences dans le procédé de fabrication, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles issues de plantes cultivées. Et on fera certainement un autre podcast qui sera beaucoup plus ciblé sur la cueillette de plantes sauvages. Donc pour produire une huile essentielle à partir de plantes cultivées, la première étape, on en parlait tout à l'heure dans le titre, c'est de la graine au flacon, c'est effectivement de sélectionner ces graines, ces plants. Alors les plants, ils peuvent être issus donc de semis par des graines ou de boutures sur des pieds mères.
Beaucoup de. Peux-tu expliquer ce que c'est les boutures sur les pieds mères?
Les boutures sur les pieds mères, c'est on a un pied, enfin un pied où les pépiniéristes ont plusieurs pieds mères, on va dire, sur lequel chaque printemps ils viennent se servir en récupérant des branches qu'ils vont tailler proprement et s'en servir pour faire des boutures.
D'accord.
De plantes. Voilà, donc les pieds mères, c'est les pieds qui vont servir à faire toutes ces boutures. Voilà, et donc soit on peut avoir des plantes aromatiques qui sont issues de graines qui vont être semées, ou soit issues de boutures faites sur des pieds mères. En général, il y a pas mal de petits producteurs qui font leurs propres semis et leurs propres boutures. C'est vrai que sur une petite échelle, c'est jouable. Après, quand on commence à produire sur des plus grandes échelles, la fabrication, la conception des plants, c'est quand même un métier, et donc on va faire appel à des pépiniéristes, dont c'est le métier, et qui auront tout le matériel nécessaire pour avoir les meilleures conditions pour faire pousser des plantes. Donc ça, c'est la première chose, bien sélectionner ses graines, ses variétés, puisque sur des thym, sur des romarins, des lavandes en pépinière, il va y avoir plusieurs variétés qui vont donner au final les huiles essentielles un petit peu différentes. Donc c'est important de choisir cette variété pour la qualité de l'huile, pour aussi le terrain sur lequel on va planter, puisqu'il y a des variétés qui vont être plus ou moins sélectionnées pour pousser à basse altitude, d'autres à moyenne altitude, etc. etc. Donc on commence déjà par s'intéresser à ces plants, à ces graines, et pour sélectionner les meilleurs et les plus adaptés à notre terroir. Et ça, il faut connaître des pépiniéristes pour discuter avec eux et voir ce qu'on peut faire suivant le terrain qu'on a.
Ok, donc tu reviens de chez ton pépiniériste avec plein de jolis plants. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Une fois qu'on a donc commandé et acheté les plants, il faut les planter. Hein. Voilà, donc en général, on a quand même travaillé le terrain en amont. Travailler le terrain, c'est plus ou moins difficile. Ça dépend si on récupère un terrain en friche qui était à l'abandon depuis 20 ou 30 ans. Bon, mais c'est vrai que c'est en général des terrains propres, puisqu'ils ont été en friche durant toutes ces années et que la terre s'est régénérée. Par contre, pour les mettre en culture, il y a quand même beaucoup de travail, justement, de défrichage de nouveau, faut arracher les racines, etc. Donc c'est un travail en général qu'on fait plutôt en hiver, hein, fin d'automne, début d'hiver, pour mettre un terrain propre. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre bien à l'avance avant de planter. Ensuite, les plantations, selon les zones géographiques, les altitudes, etc., la terre, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On va planter soit au printemps, en général, mois de mars, avril, pas beaucoup plus tard, sinon après ça fait quand même assez tard, ou sinon on va préférer planter en automne. Donc automne, on va être de fin octobre jusqu'à fin novembre. Voilà, pas plus non plus, pas moins. Et ça va vraiment dépendre de notre situation géographique, de la typicité du sol, voilà, et des conditions climatiques qu'on va avoir sur le terrain. Sachant que moi, personnellement, je préfère planter à l'automne, étant donné que je suis dans le sud de la France, que l'été il fait de plus en plus chaud, de plus en plus sec, et on a souvent des automnes assez doux et mitigés, avec des pluies hivernales, et ça permet en plantant à l'automne que le plant qui est tout petit, il puisse prendre racine pendant 6 mois avant d'attaquer sa première période estivale, où il fait en général 35 degrés, voire plus en ce moment, et le fait d'avoir 6 mois derrière lui, lui permet de mieux passer la première année. Alors après, dans les techniques de plantation, il y en a deux, hein. Il n'y en a pas 50. Il peut y avoir des techniques qui... On peut adapter des choses, mais on va planter donc en pleine terre. On peut faire... certaines personnes sur des plantes vont mettre du paillage en place, des voiles de paillage, ça peut être bénéfique au niveau du désherbage ensuite. Et sinon, dans les techniques plus... voilà, soit on plante à la main... Hein, c'est assez facile, il n'y a rien de compliqué. On va tracer des lignes au cordeau et tous les 30 ou 40 cm, on va venir y placer un plant à la main. Ou sinon, on va planter avec des planteuses mécaniques qui sont très simples de fonctionnement. C'est des roues voilà, qui tournent et qui viennent déposer les plants dans un sillon et le refermer derrière. Voilà, donc on va beaucoup plus vite. C'est vrai que quand on a mis le plant à planter d'aromatique, on peut le faire à la main, c'est jouable avec des amis et de la famille, ça fait une bonne journée. Quand on commence à planter 3000, 10000, 20000 plants d'aromatique, c'est bien d'avoir une planteuse à disposition.
Ok. Et donc, une fois que tu as mis tous tes plants en terre, il n'y a plus rien à faire, il suffit de les regarder pousser.
Alors oui, il faut les regarder pousser, mais avant tout, dès qu'on a mis les plants en terre, il faut les arroser, puisque voilà, ça va permettre de coller les racines et d'éviter qu'il y ait des poches d'air entre la racine et la terre qui pourraient engendrer des pourritures, voilà, de la pourriture, et donc qui pourraient faire mourir les plants. Donc on va arroser, on va amener selon l'humidité du sol jusqu'à presque 1 litre. Tout dépend. Et ensuite, donc la première année, voilà, le fait de les planter à l'automne, ça va permettre d'avoir de l'humidité, des pluies modérées l'hiver, qui vont faire que les plants s'arrosent automatiquement via les pluies. Ensuite, la première année, il va falloir quand même au printemps, là, il va y avoir des adventices qui vont pousser, donc il va falloir quand même les nettoyer autour des pieds pour favoriser la pousse des plants. Donc il y a un travail de binage.
Qu'est-ce que c'est un adventice ?
Alors les adventices, c'est les herbes qui vont pousser, qui ne sont pas des plantes aromatiques. Okay. Donc les adventices, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes, sauf que ça n'en est pas, hein, c'est juste des herbes, voilà, et qui sont pas mauvaises du coup, qui ont parfois même beaucoup de propriétés qu'on a oubliées. Mais voilà, on est obligé de les bêcher autour des plants pour favoriser, pour pas qu'il y ait de concurrence pour ce jeune plant qui fait vraiment quelques centimètres au départ, hein, et favoriser sa croissance, quoi. La première année, il y a beaucoup de travail de binage comme ça, et ensuite on va arriver sur la période assez critique qui est le premier été, où les plants en général s'ils sont plantés à l'automne, et ils vont arriver là, ils auront 8 mois à peu près, donc ils sont bien enracinés, mais malgré tout, quand il y a des canicules importantes et des grosses chaleurs, il faut venir là aussi la première année arroser les plants. Donc voilà, ça représente quand même pas mal de travail. Quand on a un arrosage intégré goutte à goutte, c'est beaucoup plus simple. C'est pas toujours le cas, nous on n'a pas de goutte à goutte, donc il faut venir arroser pied par pied avec une citerne et un tuyau, donc c'est assez long, assez contraignant, surtout que voilà, l'été fait quand même assez chaud. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de surveillance la première année, et la première année est cruciale. Vraiment crucial. Autre chose qui peut mettre en péril première année de plantation, c'est les excès d'eau aussi, ou les plantes médicinales, notamment les plantes de garrigue, thym, romarin, lavande, supportent très mal les excès d'eau et peuvent avoir les racines qui pourrissent et qui s'asphyxient si elles ont trop longtemps les pieds dans l'eau. Donc voilà, bon là on peut pas trop lutter contre ça, hein, on peut pas tout contrôler dans la nature. Mais c'est vrai que la première année, elle est quand même très importante pour la suite de la production, quoi.
Ouais, donc il y a quand même pas mal de travail, il suffit pas de regarder pousser.
Voilà, oui, non, voilà, on regarde pousser quand on met trois plants dans son jardin, mais quand on en plante plusieurs hectares, il y a quand même du travail d'entretien.
Et la première récolte arrive quand ?
Alors la première récolte, il faut être à la fois patient et quand on fait de l'agriculture, voir sur le long terme, parce qu'il faut pas se dire... j'ai besoin d'huile essentielle pour produire de l'essentiel pour mes clients. Il faut savoir que entre le moment où on plante et la première vraie récolte, entre guillemets, il se passe 3 ans en moyenne. Alors il y a c'est une moyenne. Il y a des plantes au bout de deuxième année on pourra récolter, ça va être honnête. Et il y en a d'autres au bout de 4 ans on pourra récolter, 4-5 ans. Donc en moyenne on va dire 3 ans pour une vraie récolte. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même anticiper ses besoins. Et pas se dire j'ai besoin de lavande ou d'huile essentielle à l'instant T. Voilà, il faut se dire que derrière, il y a 3 ans de culture et d'entretien de la plante où il n'y aura pas de récolte. Il y a une petite récolte à la seconde année, mais c'est vrai, c'est plus une taille, on va dire, de formation des plants qui va permettre son développement, mais pas du tout de rendement, quoi.
D'accord. Et ensuite, tu peux espérer exploiter la parcelle pendant combien de temps ?
C'est vraiment différent, t'es dans le vin, ce que je vous disais dans le premier épisode. Et c'est vrai que les vignes se bonifient avec le temps, on peut avoir des vignes ancestrales et centenaires. Et en fait, sur les plantes aromatiques, c'est pas du tout le cas. Pour revenir sur les lavandes, ça va durer 10-12 ans. Le thym, ça va durer 6 ans, en moyenne, si les plantes sont pas malades. Voilà, donc c'est des cultures pérennes, hein, c'est pas des cultures annuelles ou bisannuelles. Mais malgré tout, c'est une pérennité assez courte. Donc, c'est pareil, il faut toujours être dans l'anticipation et pour se dire, je vais arriver en fin de production dans cette plantation. Donc, 3 ans avant, se dire, je vais commencer à renouveler une nouvelle plantation pour arriver à pallier à cette baisse dans les anciens champs. Après, ce qui rentre aussi quand même en ligne de compte sur la durée de vie des plantations, c'est le mode de production et comment on gère la culture en fait dans le champ. Hein. Si on mécanise à outrance, notamment la récolte, peut-être qu'on va abîmer les plants un peu plus que si on cueille à la main. C'est pareil, c'est une moyenne. Les lavandes, c'est 10-12 ans. Alors peut-être qu'on peut les garder quelques années de plus si on en prend soin. Après, il faut savoir que c'est aussi beaucoup donné par rapport à une baisse de production d'huile essentielle. Par exemple, les industriels, quand ils plantent des champs entiers de lavande, dès qu'ils voient au bout de la 8e, 9e ou 10e année une chute du rendement, ils préfèrent arracher pour replanter des jeunes lavandes et garder un rendement haut, fort. Alors que quand on est dans de l'artisanat, de la petite production et de la qualité, la baisse de rendement, elle est beaucoup moins impactante, parce qu'on va compenser ça par de la qualité sur notre huile essentielle. Donc moi, par exemple, si j'ai une baisse de rendement sur mes plants à la 10e année, je vais peut-être les garder 3-4 ans de plus quand même, parce que derrière, je suis pas là pour faire du rendement, mais plutôt pour faire de la qualité.
Donc tu as une petite maison de retraite pour la vendre, et pour les jeunes qui sont... en pleine production, là, celles qui ont 4 ans, ça se passe comment, une récolte ?
Alors, une récolte, il y a plusieurs façons de récolter les plantes aromatiques. On va dire qu'il y a deux façons, la façon mécanique ou la façon manuelle et ancestrale à la main. Donc, la façon mécanique, elle est assez simple. C'est quand même pas mal d'investissements financiers pour acheter les machines. Mais c'est des récolteuses qui vont passer dans les rangées de plantes aromatiques et donc couper les plantes à une certaine hauteur réglée par la machine. Il n'y a rien de très poétique là-dedans. C'est en ça que ça rejoint tout à l'heure la durée de vie des plants. Où les plants, ils sont quand même tous différents. Donc une machine, elle ne fait pas la différence entre un plant plus petit ou un plant plus grand, elle va tout tailler à la même hauteur. Donc forcément, il y a quand même un peu plus de dégâts dans les plantations comme ça que quand on cueille à la main, quand on récolte à la main. Voilà, donc après, l'autre façon de récolter, c'est bah, effectivement de le faire à la main, avec des faucilles, comme ça se faisait à l'époque. Voilà, ça prend clairement beaucoup plus de temps, mais voilà, c'est pas le même travail, c'est pas la même qualité recherchée derrière.
Et au niveau des rendements, comment ça se passe d'une plante à l'autre? Est-ce que tu peux un peu nous raconter, par exemple, entre une immortelle et un lavandin?
Ben, les rendements sont très différents. C'est vrai que ben, pour obtenir 1 litre d'huile essentielle d'immortelle, il va falloir quasiment 400 kg de plantes. Donc ça représente une certaine surface de plantation. Sur un lavandin, il va falloir 50 kg de plantes pour faire 1 litre. Donc c'est vrai que les rendements peuvent être vraiment du simple au double, voire au triple. Hein, sur une plante comme de la mélisse qui est souvent cultivée, on va être à 6 tonnes de feuilles pour faire 1 litre d'huile essentielle. Donc il faut imaginer 6 tonnes de feuilles, ce que ça représente en termes de surface plantée. Hein. Voilà.
Okay.
Quand même assez énorme.
Donc, une fois que tu as ta récolte, tu la ramènes devant l'alambic et ça se passe comment ensuite?
Et donc là, on a fait la récolte. Il faut savoir que les récoltes, c'est quand même le moment clé pour n'importe quel agriculteur. Hein. Donc c'est des temps assez précis où il ne faut pas se manquer, il faut que la météo soit bonne. C'est vraiment le moment qu'on va attendre dans l'année. Donc on va déterminer avant la récolte, quelques jours avant, la maturité de la plante pour arriver au meilleur moment de maturité pour faire la récolte. Une fois qu'on a fait cette récolte, effectivement, il faut acheminer la plante à l'alambic. Alors ça paraît très simple comme ça, hein. On récolte et on ramène la plante à l'alambic et puis on distille tout ça. Mais il y a quand même pas mal de complexité. Après, on pourra le voir dans d'autres podcasts pour entrer un peu plus dans les détails. Mais voilà, il y a des plantes qu'on va distiller fraîches, même j'ai envie de dire ultra fraîches. D'autres plantes qu'il va falloir faire préfaner, notamment la lavande.
Une plante extra fraîche, qu'est-ce que tu as ?
Une plante extra fraîche, de mon point de vue, parce qu'il n'y a pas de vérité, hein, mais la mélisse doit être faite extra fraîche, dire la menthe aussi, voilà, dans les plantes très très fraîches, en tout cas que moi je fais, la mélisse, il faut la traiter rapidement.
Okay. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit où est implantée Bohémia, il faut savoir que les champs sont à 1 km de l'alambic et que Julien habite sur l'exploitation, ce qui est un plus pour surveiller à la demi-journée près, le moment idéal de la récolte.
Oui, c'est vrai, voilà, je suis juste à côté des champs, l'alambic est pas loin, et donc voilà, pour déterminer le jour de récolte, c'est idéal. C'est vrai qu'avant les récoltes, je passe tous les jours, pendant une semaine avant, je passe tous les jours pour voir l'avancement de la maturité des fleurs, quoi. Donc ça a quand même un rôle à jouer, tout ça.
Ok. Nous voilà à l'alambic.
Donc voilà, à l'alambic, comme je vous disais, il y a des plantes qu'on va distiller fraîches, d'autres plutôt préfanées comme la lavande.
Préfanées, c'est on les laisse un petit peu sécher.
Préfanées, c'est voilà, on va les laisser sécher gentiment 48 heures, 72 heures selon la météo pour qu'elles perdent leur poids en eau, quoi. Après, oui, on va avoir des huiles, des plantes qu'on va distiller sèches. Mais ici, je pense pas que ça soit le cas beaucoup sur le continent. Ça sera peut-être plus des exotiques.
Comme quoi, par exemple ?
Là, qui me viennent comme ça.
Du bois ?
Peut-être des clous de girofle, ouais, des bois aussi.
Okay.
Ben, par exemple, si, voilà, sur le continent, donc en France, l'huile essentielle de cadre, je pense qu'elle est meilleure si le bois est asséché quelques années avant d'être distillé.
D'accord. Et donc, on se retrouve devant l'alambic, et comment se passe la distillation ?
La distillation, c'est un procédé assez simple, puisqu'en fait, c'est de la vapeur d'eau qui va passer au travers des plantes et laisser emporter avec elle les molécules essentielles qui sont contenues dans les plantes. Cette vapeur d'eau, ensuite, elle va être condensée dans le refroidisseur. Et à la sortie de l'alambic, on va avoir un distillat qui est un mélange d'huile essentielle et d'hydrolat. Donc c'est un procédé très simple qui existe depuis l'Antiquité. C'est un peu la récompense du producteur après son travail toute l'année, où il va pouvoir admirer son travail à la sortie de l'alambic.
Ok, on pourra faire un épisode entier sur la distillation parce que c'est un sujet passionnant. Pour se rendre un peu compte, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de rendement de distillation un petit peu extrême, les plantes qui donnent le plus d'huile essentielle à la distillation et celles qui en donnent le moins?
Ben sur les rendements, un gros rendement en huile essentielle, c'est le lavandin, hein, c'est le plus gros. Où on va être sur 50 kg de lavandin pour 1 litre d'huile essentielle. Un rendement très faible, c'est la mélisse, où on va être sur 6 tonnes de feuilles pour 1 litre d'huile essentielle. Après, ce qui est important, c'est les temps de distillation. On le verra plus tard, ça, on en parlera. Ils sont légèrement différents d'une plante à l'autre.
D'accord. Dans l'essentiel, au bout de la distillation, là où tu récupères le produit de ta distillation, tu peux nous raconter la suite?
Oui, parce que bon, après, une fois que la distillation est finie, on n'est pas encore prêt à commercialiser l'huile essentielle. C'est vrai que l'huile essentielle, quand elle sort de l'alambic, bah, elle est mélangée avec l'hydrolat. On va en premier lieu séparer l'hydrolat et l'huile essentielle via l'essentiel à la sortie de l'alambic. Puis ensuite, au laboratoire, on va séparer l'huile essentielle et l'hydrolat grâce à une ampoule à décanter. Voilà, ça va permettre vraiment de récupérer toutes les gouttes de la précieuse huile essentielle. Et ensuite, il faut savoir aussi que quand l'huile essentielle sort de la distillation, de l'alambic, elle est quand même assez trouble, puisqu'elle va avoir des dépôts, de la poussière, hein, qui sont montés avec la vapeur d'eau. Donc cette huile essentielle, il va falloir la filtrer. C'est une étape pas très compliquée, mais plus ou moins longue, puisqu'on va laisser par décantation l'huile essentielle passer au travers d'un papier, enfin de plusieurs papiers filtres. Et ça va permettre d'obtenir une huile essentielle très claire, pure et sans impureté, quoi. Du coup, voilà, toutes les poussières vont rester bloquées dans les filtres. Voilà, ça c'est ce qui se passe après la distillation, directement après. Ensuite, il faut savoir qu'avant d'arriver au flaconnage, à la mise en flacon finale, il va falloir... nous, on va stocker l'huile essentielle dans des contenants en verre, plus ou moins gros, de 1 litre, 5 litres, tout dépend de la production. Et donc ces contenants, ensuite, on va les étiqueter avec le numéro de l'eau, l'année de récolte. On va leur donner, du coup, une DLUO.
Une DLUO, c'est...
La DLUO, c'est la durée d'utilisation optimale. Donc ça va donner vraiment la durée... avec laquelle on peut utiliser de façon optimale le produit. Ça a été remplacé par les DDM maintenant, qui sont les durées d'utilisation minimales. Donc c'est
sur une date de péremption.
C'est pas une date de péremption, puisqu'on peut continuer à utiliser les produits avec une DLUO dépassée. Simplement, la DLUO elle va dire que à partir de cette date, l'huile essentielle, en l'occurrence, elle peut commencer à perdre un petit peu de parfum, de propriétés. Mais malgré tout, c'est pas avéré, puisque les huiles essentielles, si elles sont bien conservées, peuvent durer très longtemps, voire certaines, je pense, peuvent même se bonifier dans le temps. Voilà, mais c'est tout ce qui se passe après la sortie de l'huile essentielle, de l'alambic. Voilà, il y a tout ce côté laboratoire, flaconnage. Il faut savoir qu'une fois qu'on a mis les huiles dans des contenants en verre, on va la garder quasiment un mois pour qu'elle puisse se détendre après la distillation. Et c'est après ce mois de repos qu'on va la mettre vraiment en flacon de 10 ml, 5 ml ou 30 ml. Voilà, pour qu'ensuite elle se retrouve sur votre étagère prêt à être utilisée.
Donc toi, je sais que tu maîtrises de la graine jusqu'à ce moment-là toute la production et la distillation, mais une petite phase qui se fait à l'extérieur d'un laboratoire indépendant, c'est l'analyse de l'huile essentielle.
Oui, on fait analyser les huiles essentielles pour savoir quelles molécules elles vont contenir à l'intérieur. Donc ça se fait par un laboratoire indépendant à qui on va envoyer quelques millilitres d'huile essentielle. Et donc, on va avoir une analyse chémotype qui va nous donner les caractéristiques chimiques qui vont se trouver à l'intérieur de l'huile. Ça permet voilà, de définir vraiment ensuite ses propriétés, son action, voir qu'on a bien distillé la bonne plante et qu'on ne s'est pas trompé de plante, par exemple, ça c'est quand même important, bien que quand on cultive ou quand on cueille, on sait ce qu'on cueille et ce qu'on cultive. Mais voilà, ça permet de savoir qu'est-ce qui est contenu dans l'huile essentielle.
Donc en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça s'appelle une chromatographie. On va mettre ces quelques gouttes d'huile essentielle dans une machine qui va analyser les molécules de l'huile essentielle. Et ce qui revient, c'est une liste de toutes les molécules avec leur pourcentage dans l'huile essentielle.
C'est ça.
Et c'est là que commence le domaine du thérapeute ensuite.
Voilà, une fois qu'on connaît les molécules à l'intérieur de l'huile, c'est là où on va avoir les propriétés et les actions différentes de chaque huile essentielle. Après, c'est bien de connaître ces plantes pour déterminer les valeurs.
Julia, je te remercie pour toutes ces informations très intéressantes. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce que l'on a appris dans cet épisode avec les différentes étapes pour obtenir une huile essentielle depuis la graine jusqu'au flacon ?
Oui, bah alors pour synthétiser un peu, vous avez compris qu'il fallait quand même beaucoup de travail pour obtenir une huile essentielle, que ce soit une huile essentielle industrielle ou artisanale. Il y a énormément de travail. Les étapes, c'est d'abord de bien sélectionner ses plantes adaptées à son terroir. Ensuite, la première année qui va être cruciale, puisque après la plantation, il va y avoir beaucoup de surveillance, beaucoup d'interventions pour que la plante puisse continuer sa croissance. Voilà, la première étape, la première année, elle va vraiment déterminer la suite de la plantation, hein, de la durée de vie de la plantation. Après, vous avez compris aussi que c'était des plantes pérennes pour la plupart, mais c'est pas des plantes qui vont durer 100 ans. Donc, c'est quand même une durée de vie relativement courte qui va nous amener à planter souvent. Ensuite, quelque chose de très important pour avoir une huile essentielle, c'est d'optimiser sa récolte avec les bons outils, les bons procédés et trouver la période idéale pour faire ses récoltes. Au niveau de la distillation aussi, c'est une étape importante où il faut faire ça de façon professionnelle, bien respecter les temps de distillation, savoir s'il faut distiller la plante sèche ou fraîche. Étape importante, c'est le laboratoire, avec la filtration notamment, et puis ensuite la mise en flacon. Donc vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses étapes entre sélection des plants, plantation, surveillance, récolte, distillation, filtration, mise en flacon. Voilà, tout ça pour au final avoir des huiles essentielles sur votre étagère.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté notre épisode jusqu'au bout. Nous vous remercions de partager notre passion. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos proches afin de faire grandir notre communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast ou laisser un commentaire. C'est ce qui nous aidera à vous proposer de nouveaux sujets et qui nous fera très plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre nos projets, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Nous répondrons à tous vos messages. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-nous-le en commentaire ou bien sur nos réseaux sociaux. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.